Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, ravie aussi d'accueillir trois écrivains extraordinaires qui sont a priori très différents, mais vous allez voir qu'ils partagent néanmoins des univers et des parcours de vie. Je vais vous les présenter en quelques mots. Donc à mes côtés, vous trouverez Nina Bouraoui qui voit le jour à Rennes en 1967. Elle grandit en Algérie, un pays auquel elle est arrachée à l'âge de 14 ans, mais elle ne cesse de faire revenir ses terres dans ses romans. Après avoir vécu dans plusieurs lieux, elle revient à Paris où elle étudie le droit et la philosophie. Et finalement, c'est la voie de l'écriture qui l'emporte. Son premier roman, La voyeuse interdite, a le prix du livre Inter. S'ensuit Le jour du séisme, mes mauvaises pensées, prix Renaudot. Ou Satisfaction aux éditions Lattès, qui nous présente Madame Akli, exilée en Algérie dans les années 60. Et au-delà du pays, Nina Bouraoui nous fait découvrir une femme qui est confrontée à l'amour, au désir et à l'attachement à son fils. À nos côtés également David Diop, qui naît en 1969, à 66, pardon, à Paris. Voilà, j'avais triché. Mais il grandit en partie au Sénégal. Agrégé en lettres modernes, ce thésard de la Sorbonne devient maître de conférences de littérature à l'université de Pau. Parallèlement, il écrit des romans comme L'attraction universelle, Frères d'âme, qui a eu le concours des lycéens et qui a été adapté en anglais sous le titre « At Night, All Blood Are Black », qui lui a valu de devenir le premier écrivain français à obtenir le Man Booker Prize. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble La Porte du Voyage sans retour aux éditions du Seuil, qui s'inspire du naturaliste français Michel Adanson. Et cet homme va nous entraîner justement dans un récit initiatique au cours duquel ce botaniste va débarquer sur un territoire colonisé, l'île de Gorée, où s'est déroulée la traite des Noirs, qu'il découvre à travers une femme très troublante et mystérieuse. Enfin, il nous fait l'honneur d'être venu des États-Unis, Viet Thanh Nguyen, est né à Dan Me Cho, au Vietnam, je prononce sûrement très mal. Après la chute de Saigon, il fuit avec sa famille aux États-Unis. Il s'installe d'abord en Pennsylvanie, dans un camp de réfugiés vietnamiens. Il grandit ensuite en Californie. Il fait des études d'anglais, des études ethniques qu'il enseigne aujourd'hui à Los Angeles. Il publie des nouvelles, des essais engagés et des romans comme Le Sympathisant, qui a eu le prix Pulitzer et le prix du meilleur livre étranger. Jamais rien ne meurt ou réfugié. Aujourd'hui, nous allons aborder Le Dévoué aux éditions Bellefond. Son héros, qui se fait désormais appeler Vaudan, lui vient de s'évader d'un camp de rééducation communiste pour atterrir à Paris, cette ville de lumière dans laquelle son passé va le poursuivre et où il va constamment être renvoyé à son identité de Vietnamien. Comment devenir soi-même, telle sera la question de son livre. Enfin, à nos côtés, nous avons également une interprète aujourd'hui qui va s'efforcer de traduire ses propos. Donc, je suis ravie de vous accueillir tous les trois. Merci d'être avec nous. Ce qui vous réunit d'abord, avant tout, c'est l'écriture, évidemment. Nina, comment est née votre dépendance aux livres, aux mots et aux histoires ?
Oui, c'est vrai qu'on peut parler de dépendance. Je crois finalement assez jeune, assez tôt, dans l'enfance, certainement parce que j'ai grandi en Algérie, certainement parce que j'ai grandi dans les années 70 à Alger, et certainement parce que j'étais peut-être une enfant qui n'a pas eu vraiment d'enfance, c'est-à-dire que j'avais déjà un regard d'écrivain sur les choses, sur la violence, sur la beauté de ce pays et surtout sur l'inlassable impression d'enfermement, notamment l'enfermement des femmes. Et lorsque j'ai commencé à écrire et que j'ai su écrire très jeune, vers 8 ou 9 ans, j'ai compris que par le prisme de l'écriture, il y avait la meilleure des façons d'être libre, en tous les cas de se sentir libre.
David, on l'a dit dans l'introduction, est-ce que ce goût de littérature est né chez vous dans les racines de l'enfance, dans ce pays où on raconte beaucoup d'histoires, où on les transmet plutôt oralement que par l'écriture?
Alors, les deux. J'ai une maman qui est une très très grande lectrice. Il y a toujours eu des livres chez nous. Et mon père, lui aussi, était un grand lecteur, mais j'avais mes oncles et ma famille au Sénégal qui, quand on était petits, nous racontaient des histoires, des contes. Et ces contes ont toujours une sorte de sagesse en eux qui pousse à réfléchir. Et donc, l'écriture, peut-être aussi, elle naît de ce goût d'entendre des histoires qui nous amènent à réfléchir et à penser le monde.
Viet, I'm going to ask you the question in English. At the end of the book, you pay tribute to Voltaire, who you are saying that as a child he amused you a lot. How did books really feed you and determined the man and the writer you became? While you are thinking, I'm translating into French. Donc, je demande à Viette au sujet des remerciements qui figurent à la fin de son livre. Il rend hommage à Voltaire, dont il dit que la lecture de cet auteur quand il était enfant l'a beaucoup amusé. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas. En tout cas, je lui demande en quoi est-ce que les livres l'ont véritablement nourri et déterminé.
Well, I grew up as a refugee in California, and I watched my parents have a very difficult life as refugees, and they didn't have very much time to spend with me as a child. So my escape was the library, where I read all kinds of books, including Voltaire as a child, Candide. I just thought it was an interesting fable and didn't really understand the complexities until I was older. But I was also reading Tintin and other kinds of children's literature, but also because I was very curious, I would go throughout the rest of the library and read very serious literature as well. Literature about war, literature about sex, literature about violence. And if you've read my work, you know there's a lot of war, sex, and violence in my work.
Madame Reynal.
Donc, monsieur a grandi en tant que réfugié. Il a vu ses parents donc souffrir en tant que réfugié et s'est tout de suite dirigé pour s'évader un petit peu vers les bibliothèques. Donc il a toujours été attiré par les livres, il a trouvé Voltaire, Candide, des choses amusantes, mais aussi des choses beaucoup plus sérieuses. Et il a lu des livres d'adultes qui traitaient donc dit de violence, de sexe et donc ce que l'on retrouve dans le roman dont nous parlons en ce moment.
Nina, à l'instar de votre héroïne, vous écriviez un journal quand vous étiez adolescente, comme beaucoup d'adolescents, mais à partir de quel moment est-ce que vous diriez que la maladie d'écrire, telle que vous la nommez dans ce livre, s'est véritablement emparée de vous ?
Ah, c'est l'héroïne qui dit la maladie d'écrire. Moi, je pense que l'écriture, en tous les cas, pour moi, n'est pas une maladie. C'est mon pays, c'est mon identité. Je suis de deux cultures différentes. Je suis franco-algérienne, même si je me sens profondément française et écrivain français. Mais d'avoir grandi en Algérie fait que dans ma langue française, il y a en contre-champ toujours la langue arabe, puisque je l'ai apprise pendant 15 ans. Je l'ai un peu parlé, pas assez. Ma langue maternelle était le français. Donc certainement pas une maladie, certainement pas non plus un moyen de guérir d'une maladie, mais certainement la seule patrie... La seule patrie et le seul drapeau sous lequel je veux bien me battre.
David, est-ce que, à l'instar de votre héros, vous diriez que l'écriture correspond pour vous à un incendie intérieur et en quoi est-ce que cet incendie peut vous guérir ou au contraire, peut-être par moments, vous consumer ?
Alors, l'écriture, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Même si j'écris des choses qui sont parfois dures, je prends vraiment un grand plaisir à écrire parce que, comme disait Nina Bouraoui, j'ai deux sensibilités culturelles et jusqu'à présent, je visite en fait ces deux sensibilités culturelles et je les concilie dans l'acte d'écrire. Et pour moi, c'est aussi un moyen de méditer sur ma propre histoire, même si je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre.
Yet in your book, you're writing that mutism represents a form of liberty towards the world. What about writing? Is it also your form of liberty? I'm translating. Dans son livre, Viet écrit que le mutisme représentait une forme de liberté vis-à-vis du monde. Qu'en est-il de l'écriture?
Yes, writing is a form of liberation for me. Certainly, because I grew up watching my parents struggle so much without any relationship to literature, I yearn for beauty, for art, for escape, and that's what literature offers. But also, for me, literature is a form of fighting. Because I also grew up with this sense that I was both an American and a Vietnamese at the same time in the United States, and that a terrible war had been fought in Vietnam, and that Americans completely misunderstood the nature of that war and of the Vietnamese people. And these American misperceptions circulated globally around the world. And so that it would be very important for me to become a writer so that I could fight against these American misrepresentations.
Donc il a vécu aux États-Unis, la lecture, l'écriture a été une libération, des libertés pour lui, c'était libération. Pourquoi? Parce qu'il a vu ses parents souffrir, se battre, et il n'avait pas à l'époque, donc il ne lisait pas à ce moment-là. Mais il a pu, à travers l'écriture, justement se battre. C'est une forme de lutte, voilà. C'est une forme de lutte, l'écriture. Ensuite, il parle bien sûr de... il était américain et vietnamien. Et il y a la guerre, cette guerre du Vietnam que les Américains peut-être ont mal comprise, qui a été mal comprise par les Américains. Et donc aujourd'hui, il vient nous reparler de cet événement et de l'expliquer de son point de vue américain, mais aussi de ce qui a manqué aux Américains pour bien comprendre cette guerre.
Nina, est-ce que pour vous, l'écriture est une façon aussi de mieux vous connaître et d'affronter vos propres ténèbres?
Oui, je crois que ça y participe. Je crois que tu l'as très bien dit tout à l'heure. Je pense que, qu'elle soit autofictionnelle ou romanesque, c'est vrai que moi, je pratique les deux genres. À chaque fois, on apprend, et surtout, étrangement, dans le roman, on apprend encore plus sur soi et sur notre propension, peut-être... à décrire et à inventer des personnages qui sont du côté du mal lorsque cela fait bien longtemps que l'on ne visite plus, le mal. Moi, je crois que l'écriture aussi a été une façon d'être une militante silencieuse. C'est vrai que j'ai souvent dit que je n'étais pas un porte-drapeau, mais finalement, tous mes livres traitent de la différence, tous mes livres traitent du métissage, tous mes livres... Nombreux sont mes livres qui traitent de la complexité de l'adolescence homosexuelle et de la façon de comment se trouver une place dans un monde qui ne vous ressemble pas et qui souvent vous rejette, puisqu'à l'adolescence, il est souvent compliqué de quitter la meute, le groupe, et il faut être fort, et que être différent, quelle que soit la différence, ça prend le chemin de toute une vie. J'ai aussi beaucoup défendu les femmes dans mes livres. Alors je crois que peut-être tout ça, le métissage, la différence, le féminisme, la féminité, en effet, sont les parts qui me construisent. C'est mon triangle fort, mon triangle de feu. À chaque fois, perdurer dans ces sujets me font peut-être aussi m'inscrire encore plus dans le monde et peut-être m'apprennent à m'accepter, je crois. Mais jamais l'écriture, pour moi, n'a été une forme de thérapie ou de médicamentation, pas du tout. J'ai commencé à écrire, à être publiée à l'âge de 24 ans, donc ça fait 30 ans que je publie. Et j'ai l'impression, de livre en livre, d'année en année, de construire une sorte de château fort. Je sais que toutes les pièces ne sont pas encore ouvertes. C'est juste la vision d'une vie, le destin d'une vie. Mon destin, il est dans l'écriture. C'était mon rêve ce n'était même pas un rêve, c'était, je crois, une évidence dès l'enfance. Et c'est ma mission. Je suis, il me semble être faite pour cela, donc je continue.
David, vous écrivez que grâce à l'art, nous arrivons parfois à entrouvrir une porte dérobée donnant sur la part la plus obscure de notre être. Pourquoi et quelle part obscure s'ouvre en vous lorsque vous prenez la plume ?
C'est difficile à dire. En fait, je fais dire cela à un de mes personnages qui a, pendant toute sa vie, quasiment oblitéré un épisode extrêmement douloureux. Michel Adanson, qui part au Sénégal au milieu du XVIIIe siècle, eh bien, il est tombé amoureux d'une jeune femme et il est arrivé quelque chose d'assez grave qui l'a tellement marqué qu'il a réussi, en s'abîmant dans le travail, à oblitérer tout ça. Et c'est en entendant de la musique, c'est-à-dire un morceau de Gluck, un passage d'Orphée et Eurydice, qu'il revit intensément ce qu'il a essayé d'annihiler pendant toute sa vie. Et je crois qu'il y a dans l'art des moyens d'ouvrir des portes sur un passé qu'on a peut-être refoulé ou qui est resté dans une forme d'obscurité. Et la peinture, l'art, peuvent nous ramener à cela sans que ce soit nécessairement une mauvaise chose, parce que je crois qu'il vaut mieux se connaître pour pouvoir vivre le mieux possible. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que je le dis. Et je fais une part, une distinction entre, évidemment, la fiction et moi. Mais peut-être qu'en même temps, je dis beaucoup de choses de moi, comme on disait tout à l'heure, et que peut-être que je soigne une blessure secrète que j'ignore en écrivant.
On ne va pas la soigner aujourd'hui, hélas. Viet, in your book, your hero writes that discovering the inside of human beings is never, never a pleasant experience. Why? And is it also the case for you as a writer who explores maybe secretly, as David was saying, me, myself and I? Dans son livre, Viet écrit que découvrir l'intérieur des humains n'est jamais, au grand jamais, une expérience agréable. Pourquoi ? Et est-ce que ça vaut pour l'écrivain qui explore dans ce livre trois volets, moi, moi-même, et je ne sais pas comment traduire ça en français, me, myself and I.
Et je.
Et je. Merci, Madame Reynal.
Well, I don't know about everybody here, but I find myself to have multiple selves within me, and that's partly due to the refugee experience that I described, but I think it's also partly due to human nature that I think most of us have at least a sense of duality, of wearing masks with other people, but that's aggravated if you happen to be a minority or a person of color or a refugee or an immigrant in a country that you were not born in.
Donc il dit que si on est donc un réfugié ou un immigrant et que on n'a pas notre culture n'a pas vécu dans le pays, c'est toujours il y a une dualité. Et c'est toujours difficile. Il y a toujours beaucoup de soi-même. On met beaucoup de soi-même dans ce que l'on fait. Et c'est toujours cette recherche donc de soi. Et toujours un petit peu difficile. Mais en toile de fond, il y a toujours cette idée d'être différent, si on peut dire, ou d'avoir vécu des choses difficiles.
But lastly. Feeling myself to be an insider and an outsider to the United States and also to Vietnam when I return. I don't feel 100% Vietnamese. I don't feel 100% American. What I also can see is that it's not just individuals who have multiple selves. It's also nations that have multiple selves. So the United States has an image of itself. And of course, the reality is quite, quite different, as I think the French can tell looking at it from the outside. Honestly, France has an image of itself, very beautiful image, looking at France from the outside, perhaps not so beautiful. And so both the sympathizer and the committed, Le Devoué, are also about investigations of these different national selves as well.
Donc il dit qu'il est à la fois un outsider et insider. Il est donc à l'extérieur et aussi donc à l'intérieur. Qu'il se sent pas, pas 100% vietnamien et pas 100% américain. Il reste donc entre ces deux cultures. Et que ce qui importe aussi, c'est la notion de nation, ce qu'elle nous apporte de pays, et que par rapport à la France, enfin, on a une image de la France, ils ont une image des États-Unis, et c'est parfois difficile de, c'est pas l'image qui correspond vraiment quand on est à la fois sur deux pays.
Le point commun entre vos trois héros, même s'ils sont très différents, c'est qu'ils nous livrent leur confession, c'est qu'on va découvrir justement leur part secrète de par l'écriture. Nina, dans votre livre, Madame Ackley écrit ses carnets. Qu'est-ce qu'elle peut justement révéler de ses sentiments et ses désirs secrets qu'elle ne pourrait pas révéler autrement que sur papier ?
Justement, j'ai pris la forme des carnets. Pour qu'on ait l'impression de lire au-dessus de l'épaule de Madame Ackley, pour que le lecteur soit ce voyeur interdit. Et puis aussi, peut-être, dans ce livre, il y a un personnage qui est important, qui s'appelle Bruce, que Madame Ackley prend pour un garçon, et en fait, qui est une fille, et qui est une grande admiratrice de Bruce Lee, et qui écrit. Et les carnets de Madame Ackley pourraient être aussi des carnets retrouvés par Bruce, ou gardés pendant longtemps, et publiés malgré Madame Ackley, après peut-être sa mort. Et je crois que dans cette confession et dans les carnets, ils sont au nombre de 7, comme les 7 péchés capitaux. Madame Ackley est quelqu'un qui a une proximité avec la poésie, avec les mots. De mon autofiction, j'ai gardé tous les matériaux, c'est-à-dire la scène d'Alger, les hauteurs d'Alger, une maison sur les hauteurs d'Alger, un ensemble architectural qui s'appelle l'immeuble Shell et qui est comme ça, qui projette des ombres sur sa maison. Et elle va écrire sur les marches de son jardin, au centre d'un jardin qui ressemble à une serre. Et plus les mimosas vont grossir, plus les lilas seront odorants, plus les racines, plus les ronces, plus le lierre va monter, plus les pensées vont devenir folles. Madame Ackley, c'est aussi ce qu'elle essaie de nous dire, c'est exactement la voix des années 70 en Algérie. Madame Ackley, finalement, c'est cette Algérie qui souffre, qui a une morale qui est comme ça en train de se durcir. C'est un pays qui sort de la guerre d'Algérie et qui s'avance lentement vers une guerre beaucoup plus sournoise, celle des années 90. L'intégrisme religieux se prépare. Pendant les années 70, nous étions tous des spectateurs passifs et idéalistes, pensant que l'Algérie n'était pas l'Iran. Et Madame Ackley, en fait, par son rejet, par son racisme, par son homophobie parfois, c'est un personnage qui n'est pas du tout féministe, qui est cantonné chez elle, qui est assignée à résidence, qui pratique une sorte de domesticité amoureuse, qui est folle amoureuse de son fils, qui en voudra à Bruce et qui tiendra parfois des propos très durs et qui préparera une vengeance très cruelle. C'est en fait finalement la voix de cette Algérie des années 70 qui explique ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les massacres en fait, des années 90, ils se préparaient là sous nos yeux. Moi, j'étais une enfant, mais je faisais partie de cette communauté mixte, d'enfants mixtes, avec un père algérien et une mère française. Et ces Françaises qui avaient fait le chemin à l'envers, quand les Français sont partis en 62, ces Françaises qui sont arrivées après l'indépendance, se sont crues algériennes. Mais en fait, pas du tout. Elles n'ont pas été du tout acceptées par ce pays. Et la détestation des autres, souvent, fait que vous vous détestez vous-même. Et que Madame Ackley, la haine qu'elle a sur les autres, c'est la haine d'elle-même, mais c'est la haine qu'elle reçoit. Elle souffre d'un racisme extrêmement tabou, qui est le racisme anti-français, anti-blanc, dans ce pays qui est en train de se reconstruire, et qui pourtant a encore des Français qui l'aiment et qui veulent l'aider.
David, Nina venait de dire que les carnets de Madame Akli auraient pu être découverts après sa mort. C'est ce qui va arriver à Aglaé, la fille de votre héros, puisqu'elle va découvrir ses écrits de son père qu'elle ne soupçonnait pas. Pourquoi est-ce que lui, il a eu ce besoin de léguer, j'ai envie de dire, ses souvenirs d'Afrique et de lui révéler à nouveau, là aussi, son vrai visage et sa vérité cachée?
J'ai aimé l'idée que Aglaé Adanson, qui est une personne qui a existé, qui était botaniste elle-même, reçoive de son père des carnets secrets. D'ailleurs, j'ai sous-titré le roman La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel Adanson en devant les mériter. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle fasse un chemin affectif dans sa mémoire pour retrouver des carnets que son père ne lui lègue pas immédiatement. Il fallait qu'elle retrouve ces carnets et qu'elle suive une sorte de chemin qui était le chemin d'une sorte d'amour filial pour retrouver ces carnets. Parce que je voulais que symboliquement, ces carnets soient dans un tiroir. Et je pense qu'il y a beaucoup de carnets qui sont oubliés par l'histoire et qui peuvent s'empoussiérer, en fait. Et j'ai voulu que le personnage d'Aglaé, comme le lecteur, ouvre ce tiroir pour découvrir un voyage d'un homme qui a découvert que ce qu'on lui disait des autres était faux. Et que dans une période où il y avait des préjugés extrêmement forts, eh bien, il y a des gens qui arrivent à dépasser ça et à aller voir ce qu'est l'autre et le découvrir. Donc, j'aime beaucoup les tiroirs dans les récits, les enchâssements. C'est aussi une technique d'écriture au XVIIIe siècle qui fait que, évidemment, le lecteur est un voyeur et qu'il lit, j'aime bien la formule, par-dessus l'épaule de la personne qui découvre les carnets. Et c'est un jeu aussi, c'est un jeu littéraire avec toute une cascade de possibilities d'interprétation.
Viet, in your book, your protagonist offers us his confessions. Why does he need to show us this man who has two faces and two minds? Dans votre livre, le protagoniste se livre à ses confessions. Pourquoi a-t-il besoin de montrer cet homme aux deux visages et aux deux esprits?
Well, these two novels are very much about war, colonialism, racism, but they're not just about the things that were done to Vietnamese people, but the things that Vietnamese people did to each other.
Ce roman traite de la colonisation, de racisme, mais aussi il. Ce que les Vietnamiens donc se sont fait entre eux, le combat entre Vietnamiens.
So what was very important for me in these novels was to put Vietnamese people at the center of their own stories.
Donc le but dans ce roman, c'était donc de mettre ces Vietnamiens au centre donc de l'histoire.
Which means that they are not just victims, but that they are the agents of their own history, and that they themselves are responsible for as many atrocities as the Americans and the French did to the Vietnamese as well.
De façon à montrer qu'ils ne sont pas toujours des victimes, mais aussi ils sont les agents de leur propre, des actions, de tout ce qui a été fait, donc de tout ce qui peut être des actions méchantes, enfin tout ce qui peut nuire aux Vietnamiens.
So we have a tradition of confessions in Western literature. But we also have a tradition of confessions in the communist re-education camps that I wanted to refer to.
Il y a donc une notion de confession dans le le personnage dont est allé dans un camp, ce qu'on appelle de re-education camp, de rééducation, et donc c'est ce qu'il a voulu montrer, que cette réalité du camp aussi.
The last thing about the confession that's very important to me is that these confessions are written by a Vietnamese person speaking to another Vietnamese person.
Ce qui est important, c'est que ces confessions aient été écrites par un Vietnamien s'adressant à un Vietnamien.
And of course, if a Vietnamese person is speaking to another Vietnamese person, we don't translate to each other.
Et donc, pas de nécessité donc de traduction à ce moment-là.
Whereas, I think it is often the expectation when you are a minority in French society or American society, and you become a writer, you are expected to translate to your audiences, and I refuse to do that.
Donc, si on parle effectivement de minorité, on a tendance à vouloir. Ce qui se fait, c'est de traduire, et donc Viet ne souhaite pas refuser donc de traduire.
Nina Viet nous parle à plusieurs reprises de ces questions d'identité qui sont aussi le fil rouge de vos livres, dont celui-ci, vous-même, vous percevez comme une exilée dans l'âme, une orpheline du passé, peut-être comme votre héroïne. En quoi est-ce que vous tentez justement constamment d'explorer ces doubles identités qui vous habitent ?
Ah, je crois qu'il y a cette obsession d'avoir perdu un paradis, mais ce paradis s'appelle l'enfance. Pour moi, l'Algérie n'est plus un pays, c'est mon enfance. Je n'y suis pas retournée depuis très longtemps, depuis presque 40 ans. Mais le temps passe vite. Et je crois que à chaque fois, écrire sur ce pays est une manière de le revisiter, de le réinventer. Je pense que j'ai créé une légende algérienne aujourd'hui. Je crois que lorsque je serai prête pour retourner dans mon pays, dans ce pays qui m'attend, qui m'a souvent invitée, j'ai failli plusieurs fois y aller, mais je crois que c'est un voyage tellement important pour moi qu'il faut que je l'organise et que je sois escortée par tous les esprits amis et amoureux qui m'entourent, parce que j'ai tellement raconté aussi à mes proches ce pays, et j'aimerais tellement aussi y retourner avec ma grande sœur et avec ses enfants, parce que je sais que ce sera un voyage très important. Donc il faut du temps, et je n'y suis pas retournée. Mais la littérature permet de revisiter, de dire bonjour et au revoir aussi à vos fantômes. Et puis, enfant, je jouais beaucoup dans les ruines de Tipaza, puisque l'Algérie est un pays assez étrange, refermé sur lui-même, qui a sa violence. C'est une terre qui est mouillée de sang encore. C'est une terre qui a été envahie de nombreuses fois. C'est une terre qui a beaucoup souffert, mais c'est une terre totalement fascinante, avec un peuple fascinant. Et pour moi, la nature était vraiment le terrain de jeu, et mon terrain de jeu préféré était ces fameuses ruines de Tipaza dont t'as tant parlé, Camus. Mais je savais, et d'ailleurs Michel Aclie, mon héroïne, en parle souvent, parce que pour moi, l'Algérie est liée aux vestiges. L'Algérie est un pays de pertes, c'est encore un pays qui est, je trouve, encore en construction, et même dans son rapport à la France, ses sentiments par rapport à la France et vice-versa. Nous sommes encore dans la construction. Je pense que le temps de la haine n'est pas fini, hélas, mais le temps de l'amour est assez proche. Et d'avoir vécu dans ces vestiges et d'avoir joué dans ces vestiges romains, c'était avoir aussi joué avec la mort, mais jouer aussi avec la grande histoire et la mêler à la nôtre. Et se dire que finalement, avoir conscience que nous n'étions que de passage et que peut-être la littérature est une forme d'éternité, le temps de son exploration et de son application lorsqu'on écrit et qu'on embrasse sa grâce.
Vous parlez des vestiges, j'ai envie de dire que ce sont d'autres vestiges qui apparaissent dans votre roman, David. Ce sont les vestiges du passé que Michel a longuement porté en lui, parce que ces thématiques de l'exil que vous avez vécu aussi dans votre chair doublement, j'ai envie de dire, dans les deux sens. Michel aussi est un double exilé, puisqu'il est parti volontairement découvrir l'Afrique et qu'il est parti involontairement en tant que botaniste, mais aussi en tant qu'homme blessé, parti véritablement la mort dans l'âme en France. Comment est-ce que lui et vous, vous vivez ce double exil intérieur ?
Alors, c'est assez bizarre, mais on peut écrire sur la difficulté, justement, de vivre de certains personnages tout en étant heureux soi-même. C'est-à-dire que je ne vis pas, en fait, mes deux sensibilités culturelles, je ne les vis pas comme étant ni antagoniste, ni source de souffrance. Et c'est lié à mon histoire personnelle. Et cette histoire personnelle, elle m'appartient, elle n'est pas traduisible à d'autres personnes que moi. Et je ne me... Alors, il est vrai que quand je suis en France, j'ai la nostalgie du Sénégal, et quand je suis au Sénégal, j'ai la nostalgie de la France. Il est vrai que quand je suis en France, j'adore regarder un feu de bois. Et quand je suis au Sénégal, eh bien, je me dis, voilà, ce feu de bois, je le regrette un peu. Et c'est un mouvement, en fait, de va-et-vient. Mais ce n'est pas un mouvement douloureux, parce qu'il n'y a pas cette histoire, peut-être, qu'il y a eu entre l'Algérie et la France qui a été difficile, ou entre le Vietnam et la France qui a été difficile. Au Sénégal, ça a été très difficile, cette histoire, mais je n'ai pas ressenti autour de moi, dans mes familles respectives, autant en France qu'au Sénégal, autre chose que de l'affection. Et ça, si vous voulez, c'est une histoire personnelle qui fait que, du haut, disons, de mon bonheur de vivre ces choses d'une façon aussi agréable, peut-être pour prendre conscience justement que j'ai cette chance-là, je peux me permettre de mettre en scène des personnages qui ne réussissent pas ça, ou qui ont essayé, ou qui vivent dans une période, dans le fond, où cette conciliation de deux sensibilités culturelles ou de deux amours n'était pas possible. Et peut-être que je l'écris en me disant, j'ai peut-être beaucoup de chance de ne pas connaître cette violence, cette difficulté.
C'est peut-être pour ça aussi que vous y mettez l'amour du Wolof, notamment auquel vous rendez hommage dans ce livre, cette langue qui apparemment renferme tous les trésors du monde, de l'humanité, de la fraternité, comme vous l'écrivez. Viet, in your case, although the protagonist dreams to be integrated into France, who is a country, wonderful country that we are living in, but he has no name, he has no state, and he's constantly pointed as a Vietnamese in the eyes of others. Would you say that through your writing, you wanted also to show that you have your inner identity, but in the eyes of others, you have also an identity? Sorry. Donc Viet, par rapport à son... Voilà, je me trompe dans mes pages, pardon. Que malgré son envie de s'intégrer, son protagoniste, son héros qui n'a ni nom ni état officiel est toujours renvoyé à ses origines. Et donc je demandais à Viet si à travers son écriture justement il veut nous montrer aussi ces indésirables qui ont à la fois une identité intérieure mais également une autre identité qui est offerte ou qui est plutôt stigmatisée par les autres.
I don't know if the American thinker W.E.B. Du Bois is known here in France, but he's a very famous black scholar and thinker in the United States. And he coined this term, double consciousness.
Je ne sais pas, il ne sait pas si l'auteur qui s'appelle...
W.E.B. Dubois, mais in the United States, Du Bois, ok,
et connu en France, hein, c'est ça. Donc, mais vous êtes basé sur ses écritures, enfin, sa pensée pour écrire votre livre.
But his term double consciousness was very important to me because he was using it to describe the experiences of black people in the United States.
La notion de double conscience était très importante pour lui parce que il s'attachait à décrire la situation des noirs aux États-Unis.
According to Du Bois, I'm going to use Du Bois' term, the Negro always sees himself through his own eyes and the eyes of others.
Et Du Bois qui dit donc qu'un homme noir se voit à travers ses propres yeux, mais aussi à travers les yeux des autres.
And that is true, I think, for me as well, and for so many other people of color in the United States.
Et c'est la même chose pour lui et pour beaucoup de gens de couleur aux États-Unis.
And so yes, the sense of duality has always been present in my life. And then also in these novels about my character, who is always seeing himself, all within himself, but also very aware of how other Vietnamese people, how Americans, and how the French are seeing him as well.
C'est la même chose pour son personnage qui se voit comme les Américains ou les Français peuvent le voir.
And so, in English, we call it the white gaze. To be aware of the white gaze, it's something that can be very debilitating, but it's also something that must be rejected.
I don't know how to translate it.
It's getting very quite difficult.
It's a kind of supremacy you want to do it?
The way that white people will look at people of color is something that is very debilitating sometimes for us, and it's something that must be rejected, which is what happens in these novels.
La façon dont les Français,
les blancs
en fait, les voient, peut être très déstabilisant pour eux. Et il y a toujours cette dualité, elle insiste sur la dualité qui a été dans sa vie, dualité qui existe dans son existence et qu'on retrouve chez le personnage.
Il y a une autre dualité qu'on perçoit également dans votre livre, Nina, c'est celle entre la mémoire individuelle et la mémoire collective, dont vous dites que toutes deux sont cruelles. En quoi elles l'ont été envers ces deux pays que vous avez habités et qui vous habitent?
Comment résumer? C'est compliqué, mais je crois que déjà être l'enfant de deux parents dont les pays se sont fait la guerre, il y a une sorte d'antagonisme, de dichotomie, de d'écartèlement aussi, puisque contrairement à toi, moi, ce n'était pas toujours très joyeux. Peut-être du côté algérien, oui, mais du côté français, il y avait de la peur, il y a eu du rejet, il y a eu du racisme, et c'est quelque chose qui est compliqué après pour apprendre à s'aimer et apprendre à aimer son autre part. Donc il faut souvent toute une vie pour rassembler, mais je trouve que c'est un des avantages de la maturité, c'est qu'elle la maturité nous fait rapprocher nos racines et nous fait les aimer. Mais c'est vrai que cette à la fois sororité et haine entre l'Algérie et la France, elle est ancestrale, elle perdure, on le voit encore aujourd'hui avec toutes les déclarations de part et d'autre de la Méditerranée. Il y a en France, je trouve que chaque Français a un lien plus ou moins proche avec l'Algérie. En France, on trouvera toujours quelqu'un pour vous parler d'un Algérien ou de l'Algérie, comme si les Français étaient traversés d'Algérie, mais les Algériens aussi. Les Algériens voyagent beaucoup en France et sont souvent... il y a un lien très fort. Et moi, je ne les vois pas comme des frères et sœurs ennemis. Je ne sais pas qui fait le frère, qui fait la sœur, ou peut-être ce sont deux sœurs, ou peut-être ce sont deux frères, mais vraiment, peut-être comme ces familles dysfonctionnelles qui s'aiment beaucoup, mais on n'arrive pas à entrer dans ces méandres et on n'ose pas, ni dans ses mystères, ni dans son agressivité, ni dans son... je pense qu'il faut savoir... j'ai beaucoup de mal avec le pardon. quand un pays pardonne à un autre, parce que je trouve que ça met l'autre en situation encore de fragilité, et je trouve que ça le met encore en position de dominer, et que la colonisation, hélas, et l'absorption d'une culture par une autre, et crée souvent des complexes d'infériorité. Mais je crois plus à la transmission de la mémoire. Je crois que c'est ça qui est important, en tous les cas entre ces deux pays, que les enfants qui grandissent connaissent aussi ce que la France, ce qui s'est passé en Algérie, mais aussi savoir qu'il y avait des Français amoureux de l'Algérie, il y avait des Français qui sont partis le cœur plein de larmes et qui retournent aussi, comme il y a des Algériens qui adorent la France et qui se sont adaptés en France avec... la chance aussi, peut-être, d'y grandir, d'y faire des études, de se réaliser. Mais je crois que, en tous les cas, dans Satisfaction, ce qui était intéressant, c'est de se dire que cette colonisation, elle a après engendré une sorte de monstre, c'est-à-dire que les colonisés sont devenus les femmes en Algérie et les colonisateurs n'étaient plus les Français mais sont devenus les hommes. Et ça, c'était très frappant lorsque j'ai vécu là-bas et je l'ai vu et je l'ai expérimenté, notamment par la vie de ma mère qui était à l'une adulte. Je me suis rendu compte que finalement, ce rapport de colonisés et colonisateurs s'était déplacé et que l'on avait semé ainsi cette mauvaise graine sur ce pays et que... les Algériens, les hommes algériens avaient tendance à coloniser les femmes algériennes ou françaises et qu'au sein même de la population, il y a eu des strates et que certains d'entre eux sont restés décolonisés à tout jamais. Parce que la colonisation aussi a cette espèce de poison qu'elle sème la discorde au sein d'un même peuple et qu'elle peut semer une sorte de racisme interne et dangereux.
On le retrouve également, ce poison-là, dans votre livre, David, puisque à travers Michel Adanson, on revisite un épisode, là aussi, de l'histoire. Lui-même fait partie de la race des oppresseurs, tel que vous l'appelez. Pourquoi est-ce qu'à travers lui, vous aviez envie de ressusciter ce drame de la colonisation et de la traite négrière ?
Alors... Viet disait tout à l'heure en fait que il faut peut-être lui mettait en scène deux personnages, un Vietnamien qui dit à un Vietnamien ce qu'il a à lui dire et clairement en fait. Donc ça veut dire que je pense que il faut lire cette histoire passée qui était violente d'une façon assez lucide pour comprendre que les responsabilités existent en Afrique autour de cette question de l'esclavage. Il se trouve que c'est vraiment une période précoloniale au Sénégal à laquelle on assiste au XVIIIe siècle et que les Européens, les Français trafiquent sur les côtes, mais qu'il y a des royaumes au Sénégal qui ont leur autonomie et qui sont en concurrence. Et ces royaumes, en fait, se font la guerre pour acquérir plus de territoire et la monnaie d'échange pour avoir des fusils, ce sont des esclaves. Et ça, moi, j'avais envie que mon personnage, qui est un philosophe des Lumières et qui est rempli de grands idéaux des Lumières qui sont admirables, eh bien, touche du doigt la réalité de l'esclavage au moment où ces grandes idées apparaissent, hein, qui vont se concentrer dans la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, on assiste au pic de la traite négrière. Mais cet épisode, il faut, pour moi, pour rendre justice, en fait, finalement, à la responsabilité des uns ou des autres, que dans le contexte où je mets mon personnage, il soit bien clairement dit que, eh bien, les rois ou quelques rois ont vendu des esclaves contre des fusils. Alors, évidemment, les Européens ont joué sur les dissensions pour pouvoir vendre, acheter des esclaves et contre des fusils. Et donc, un fusil, un homme, ou un fusil, plusieurs hommes ou plusieurs femmes. Et ça, c'est ce qui me paraît, c'est important de le dire pour ne pas tomber dans un schématisme, une simplification de l'histoire. La littérature permet peut-être de revenir à une histoire complexe.
Ben, ce sera justement la conclusion de cette rencontre, parce que telle est la force de vos livres, où justement vos trois personnages, on ne le dira pas, essayent de s'affranchir aussi de cette histoire pour découvrir leur liberté intérieure. En tout cas, merci beaucoup à vous trois. Thank you so much, Viet. Merci à Madame Reynal pour votre traduction et merci à vous pour votre attention.